L'évangile, c'est quelque chose de glorieux qui vient de Dieu. Et cet évangile qui vient de Dieu a un pouvoir extraordinaire, n'est-ce pas ? La plupart d'entre nous qui sommes là cet après-midi, nous sommes là parce que l'évangile bien est venu jusqu'à nous et que ça a changé notre vie à tout jamais, c'est vrai ou pas ? Alors il faut semer. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce prédicateur anglais qui voyageait assez souvent et il était en Angleterre et lors d'un grand rassemblement, il a rencontré une personne avec qui il a déjeuné et cette personne lui a raconté comment elle s'était convertie. Elle lui a raconté qu'elle était en Australie pour un certain temps et là en Australie, dans une grande ville, à un moment donné, alors qu'il errait là dans les rues de cette grande ville, un monsieur s'est approché de lui en lui tendant un prospectus et en lui disant « Connaissez-vous Jésus ?» Connaissez-vous Jésus ? Est-ce que le Seigneur vous a sauvé ? C'est bizarre comme chose, n'est-ce pas ? Mais c'est cette chose-là qui a amené cette personne à la réflexion. Il a lu le traité qui lui avait été remis et cette personne s'est convertie. Rentrée en Angleterre, convertie réellement, etc. Quelque temps plus tard, ce brave prédicateur américain part aux Indes et il va faire là un séminaire avec plusieurs centaines de pasteurs. Et il rencontre parmi ces pasteurs des missionnaires notamment. Il rencontre quelqu'un avec qui il va déjeuner et ce quelqu'un va lui raconter cette histoire. Il va lui dire « Voilà comment je me suis converti. J'étais en Australie pour une certaine période et j'étais dans telle ville, la même ville que l'autre. Et alors que j'irais là dans les rues de cette ville me promenant, bien tout d'un coup, un monsieur est sorti là, je ne sais pas trop où, m'a tendu un prospectus et il m'a dit « Connaissez-vous Jésus ?» Et c'est ce qui va amener cette autre personne à réfléchir à la foi, à son salut, au salut de son âme. Et cette personne va se convertir, dit-elle. Elle va devenir même missionnaire et elle va gagner à l'évangile, cette même personne, des centaines et des centaines de personnes. Quelque temps plus tard, il va se retrouver dans un autre pays et il va rencontrer une autre personne qui va lui raconter la même histoire. Et il fera comme cela 4 ou 5 lieux différents, 4 ou 5 pays différents. Et chaque fois qu'il va arriver dans ces pays-là, quelqu'un va lui raconter la même histoire. C'est étonnant, hein ? Puis, il est invité en Australie. Il arrive en Australie et il rencontre le pasteur qui l'avait invité. C'est dans la ville dont on lui avait dit qu'un certain monsieur distribuait des prospectus. Et alors, il demande au pasteur de l'église, « Est-ce que vous connaissez monsieur un tel ?» Elle lui dit, « Bien sûr. » Il dit, « Mais est-ce que je pourrais le voir ?»« Bien sûr, il est toujours vivant. » C'est un personnage qui a de l'âge maintenant, il est au soir de sa vie, mais si vous voulez, on va le voir ensemble. Alors ils sont allés, et il est arrivé là, et c'est un vieux monsieur qui était là, et ce monsieur a raconté son histoire. Il raconte comment sur un bateau, quelqu'un lui a rendu témoignage, quelqu'un de qui on se moquait, mais lui il a été touché, et il s'est tourné vers le Seigneur, et il a vraiment donné sa vie à Jésus, et il avait dit au Seigneur, il avait fait une prière, il avait dit « Seigneur, ce que j'aimerais dans ma vie, c'est qu'il ne se passe pas un seul jour sans que je témoigne de toi, sans que je parle de toi. » Et il va dire, au prédicateur anglais, il va dire « Ça fait maintenant des dizaines d'années que chaque jour, je parle à quelqu'un de Jésus, je vais dans la rue, je donne un prospectus. » Et quand l'autre il lui raconte ce qui s'est passé, comment il a rencontré à différents endroits du globe des gens qui lui ont dit « un vieux monsieur ». Le monsieur s'est mis à pleurer. Il a dit « Voyez, ça fait plus de 30 ou 40 ans que je fais ça. Et je n'ai jamais vu une personne se convertir. » Parfois, on ne voit pas les choses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas quelque chose. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là en train de faire son œuvre dans les vies, dans les cœurs. Et c'est pour ça qu'il faut témoigner, parler du Seigneur, qu'il faut prier pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et croyez-moi, quand on fait cela, le Seigneur nous étonne. C'est vrai ou pas ? Il nous étonne. Et je vais lire un texte avec vous où on voit quelque chose d'étonnant. Et vous connaissez ce texte, je pense, la plupart d'entre vous. Actes chapitre 9, verset 1er. On lit ensemble. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre des disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ça, c'est un vrai appel, hein. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécuta Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc un texte magnifique qui nous relate bien ce qu'on pourrait appeler la conversion de Saul de Tarse, qui deviendra, bien quelques temps plus tard, l'apôtre Paul, un homme de Dieu véritable qui eh bien, fera l'œuvre du Seigneur. On a dans ce passage beaucoup de choses en réalité sur lesquelles on pourrait s'arrêter. Je vous parlais tout à l'heure de l'appel que le Seigneur adresse eh bien, à cet homme, quelque part, par l'intermédiaire d'Ananias. Le Seigneur lui dit, c'est un instrument que j'ai choisi, et voilà, il prêchera ma parole, et il ira devant les rois, devant les nations, devant les fils d'Israël, et il rajoute, je lui montrerai aussi tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez, ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est que Dieu dit toujours, nous dit toujours la vérité. Hein? Si je voulais enrôler quelqu'un dans, je sais pas moi, une armée ou j'en sais rien, ou quelque chose que l'on aurait à faire ensemble, etc., c'est sûr, je lui montrerai que les bons côtés des choses. Je cacherai les choses qui eh bien, pourraient le repousser, vous voyez. Mais Dieu n'est pas comme nous, n'est-ce pas? Dieu nous dit toujours la vérité. Et il dit, cet homme, c'est un instrument entre mes mains, je l'ai choisi, je vais faire mon œuvre au travers de sa vie, mais il n'y aura pas que cela. Dans sa vie aussi, il va y avoir, à cause de mon nom, de la souffrance, il va souffrir pour mon nom. Dieu dit toujours la vérité. C'est vrai ou pas? Des fois, eh bien, la vérité, elle nous fait du bien dans le sens que eh bien, ce sont des promesses, c'est une exhortation, Dieu nous encourage. Puis quelquefois, la vérité, eh bien, elle nous bouscule un peu, elle nous dérange. Ça vous arrive que la vérité, elle vous dérange un peu? Moi, ça m'arrive. Hein? Ça m'arrive quelquefois. Et... Mais il faut que la vérité eh bien, nous dérange aussi, de telle sorte que nous puissions toujours marcher sur le bon chemin. Donc, je disais, il y a plusieurs choses que l'on aurait pu voir ensemble au travers de ce texte, notamment ce que je viens de dire, mais je vais m'arrêter sur des choses qui sont là et qui sont... me semble extraordinaire. Saul de Tarse est un homme un peu particulier. La Bible le définit ici comme un homme qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est-à-dire qu'il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens. Et vous voyez, c'est un homme quand même qui je dirais, certainement suscité la crainte, la peur, n'est-ce pas? Il respire la menace et même le meurtre. Donc, être chrétien et rencontrer Saul de Tarse, eh bien, ça ne devait pas être simple, n'est-ce pas? Donc, cet homme-là, qui s'oppose, eh bien, à l'Église, s'oppose aux chrétiens, s'oppose par là même à Jésus, il va, eh bien, vers les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, lui demande des lettres, afin que, eh bien, il aille dans les autres synagogues des autres villes, notamment Damas, afin que s'il trouve quelques chrétiens là, il puisse les prendre et les amener à Jérusalem et les mettre en prison et les faire juger. Donc voilà quel est l'état d'esprit de cet homme. C'est un fanatique religieux vraiment et qui s'en veut et qui s'en prend violemment eh bien, aux chrétiens. Et alors qu'il est sur le chemin qui l'amène de Jérusalem à Damas, eh bien, cet homme va faire une rencontre extraordinaire. C'est une rencontre qui va changer véritablement le cours de sa vie. J'aimerais dire que cet après-midi aussi, dans ce lieu, quelqu'un peut rencontrer celui qui est capable de changer le cours de notre vie. Nous l'avons rencontré, ce même personnage extraordinaire, ce même Jésus qui vient se révéler à Saul de Tarse, nous l'avons rencontré aussi. Et le jour où nous l'avons rencontré, notre vie a été changée, notre vie a été bouleversée. Vraiment, il y a eu en nous une transformation extraordinaire. Vous savez, on ne naît pas chrétien. C'est pas quelque chose qui est dans les gènes, hein? Parce qu'il y a des gens qui croient ça, hein? Les gens ils sont perçus. Moi je suis chrétien. Pourquoi? Parce que mes parents étaient chrétiens. Ah bon? Donc je savais pas que c'était dans les gènes. Mais on ne naît pas chrétien, on le devient par une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Et pour cette expérience personnelle avec Jésus-Christ, il faut le rencontrer. Alors je bénis le Seigneur. Je vais vous dire pourquoi je bénis le Seigneur cet après-midi. Parce qu'en réalité, dans ce lieu, on peut rencontrer Jésus. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui signifie que le Seigneur est véritablement au milieu de nous cet après-midi. Au cas où quelques-uns l'auraient perdu de vue, j'aimerais le rappeler quand même. Jésus est au milieu de nous cet après-midi. Il est là dans ce lieu. Et il peut agir, il peut faire des choses extraordinaires, des choses qui vont susciter peut-être même l'étonnement, l'émerveillement de notre cœur. Jésus vient à la rencontre de Saul de Tarse. Chose étonnante, ce n'est pas Saul de Tarse qui est allé à la rencontre de Jésus. C'est Jésus qui est allé à la rencontre de Saul de Tarse. C'est toujours le Seigneur qui fait le premier pas, n'est-ce pas? Par les circonstances, par les situations, par toutes sortes de moyens, Jésus fait toujours le premier pas. Je parlais de cet homme tout à l'heure, j'imagine ces personnes qui erraient dans les rues de cette ville australienne, d'un coup ont vu débouler ce monsieur en disant « Connaissez-vous Jésus ?» Ne croyez pas que c'est le Seigneur qui venait à leur rencontre, plutôt qu'eux qui allaient à la rencontre du Seigneur. Oui, le Seigneur vient toujours à notre rencontre, parce qu'il a de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Jésus est là au milieu de nous. Et comme il est donc sur ce chemin qui le mène de Jérusalem à Damas, bien, il y a des choses qui se passent. Je vais m'arrêter sur ces choses-là pour essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'Évangile, en fait. C'est quoi l'Évangile, en réalité? Il est dit d'abord, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Je crois que l'Évangile, c'est d'abord une lumière. Et ça, c'est une lumière qui éclaire notre cœur, notre intelligence, notre esprit. Vous voyez? On a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Un scientifique disait cette semaine, j'entendais cela, il parlait de la nature, et bon, c'était certainement un peu écolo dans l'esprit, mais il disait qu'en fait, la lumière et l'eau sont les deux éléments indispensables à la vie de l'être humain. La lumière et l'eau. C'est vrai. C'est vrai. Et il disait, chose extraordinaire, c'est que la lumière et l'eau sont les deux choses sur lesquelles il n'y a pas de lobby. C'est vrai aussi. Et c'est formidable de savoir qu'en fait, sans lumière, eh bien, la vie ne peut pas se manifester réellement, véritablement. Elle est indispensable. Je suppose que si je posais la question cet après-midi, que préférez-vous, l'obscurité, les ténèbres, le noir total ou la lumière? Vous allez tous me dire la lumière. Sans parler de christianisme pour l'instant, sans parler de l'évangile. Naturellement, on préfère la lumière, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'il y a de dramatique dans l'histoire des hommes, depuis le péché d'Adam et Ève, c'est que le monde a été plongé dans les ténèbres. Le cœur de l'être humain, c'est pas autour de lui seulement qu'il y a les ténèbres. C'est dans son cœur même qu'il y a les ténèbres. C'est dans son cœur même qu'il y a de l'obscurité. C'est dans son cœur même que l'homme, à cause de cette obscurité, est dans l'incapacité de voir la splendeur de Dieu, de voir la gloire du Seigneur. C'est dans le cœur même que le Dieu de ce siècle a mis une obscurité profonde de telle sorte que les hommes ne peuvent pas voir briller la lumière de l'Évangile. Mais béni soit Dieu. Dieu est quand même en mesure aujourd'hui de faire briller sa lumière dans nos cœurs.
Alléluia.
Et Saul de Tarse le dira plus tard. Il dira que son cœur aussi, il était dans les ténèbres. Il dira, mais c'est vrai que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Mais il dira, mais Dieu, Dieu qui est grand, Dieu qui est bon, Dieu qui est extraordinaire, a fait briller la lumière dans nos cœurs, afin qu'on découvre, afin que l'on voit la splendeur de l'Évangile. C'est formidable lorsque tout d'un coup l'Évangile vient éclairer notre cœur. Alors, j'aimerais quand même rajouter que quand l'Évangile vient éclairer notre cœur, il met quand même l'accent sur certaines choses importantes. Pas vrai ? Si je pénètre dans une maison où il y a l'obscurité totale, je dis bien totale, je serai incapable de voir si cette maison est bien rangée ou pas. Pas vrai ? Elle peut être complètement en désordre sans que je sois en mesure de voir que dans la maison il y a le désordre. Parce que je suis dans l'obscurité totale. Mais si la lumière jaillit, à ce moment-là, il y a de fortes chances que je voie si dans la maison il y a du désordre ou pas. Pas vrai ? Quand la lumière de l'Évangile vient briller dans notre cœur, ça commence à nous éclairer sur le désordre qu'il y a dans notre vie. Désordre moral, spirituel. Ça nous éclaire sur l'état de pécheur dans lequel nous sommes en réalité. Vous savez, avant de me convertir, j'avais une opinion de moi-même. Quelqu'un a dit ceci, à juste raison. Quelqu'un a dit, il y a trois façons de penser l'homme. Il y a ce que les autres pensent de vous. En général, ils pensent ce que vous leur montrez. Il y a ce que vous, vous pensez de vous. N'est-ce pas ? Et il y a ce que Dieu sait de vous. Et quand l'Évangile vient, vous découvrez ce que Dieu sait de vous. Moi, j'étais persuadé que j'étais vraiment un gars bien. Un bon gars. Vous voyez, même à la bouille que j'ai, vous le pensez. Donc, je veux dire, j'étais persuadé, ouais. Même cette notion un peu, mais si les gens étaient un peu comme moi, ça irait mieux, quoi. Quel orgueil, non ? Quel orgueil démesuré. Mais ça, c'était tant que mon cœur était dans l'obscurité. Quand l'Évangile est venu, quand la lumière de l'Évangile a pénétré dans mon cœur, j'ai vu tout le contraire de ce que je pensais. J'ai découvert que j'étais un grand pécheur aux yeux de Dieu et que j'avais besoin du pardon de Dieu, que j'avais besoin de plier les genoux devant le Seigneur. J'avais besoin de lui dire, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes transgressions, tout ce que j'ai fait qui t'a offensé. Seigneur, je te demande pardon et je bénis le Seigneur. Vous savez, dans ce moment-là, j'étais complètement perdu. Mon péché m'accablait, il me condamnait, et j'étais là bien avec une seule perspective, le rejet de Dieu, l'enfer, loin de la face de Dieu. Mais béni soit le Seigneur, l'Évangile c'est une lumière qui éclaire pas seulement pour qu'on voit le désordre qu'il y a en nous, c'est une lumière qui nous apporte la solution pour que le désordre soit remis en ordre.
Amen.
Et alors que je pensais que j'étais perdu dans ma misère, et je le croyais vraiment, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu bien m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Mes yeux étaient fermés. Mes yeux étaient fermés. Mais devant moi s'est dressée une croix. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, regarde, il a payé pour toi.
Amen.
Ça a changé ma vie à tout jamais. Alléluia. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'aimait, qu'il m'avait aimé, qu'il avait donné son Fils pour moi. Et qu'en donnant son Fils pour moi, il m'avait acquis le pardon de mes péchés. Ce jour-là, j'ai reçu le pardon de mes péchés, béni soit Dieu. Cette assurance en moi ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui encore, je sais, j'espère que ça vous le savez, parce que si vous le savez, ça doit vous rendre heureux. Aujourd'hui, je sais que je suis sauvé.
Amen.
Alléluia, c'est formidable ça, non ? Je sais que je suis sauvé. Une lumière. Mais l'évangile, c'est aussi, on le voit un peu plus loin, une voix. C'est une voix. Il est dit ici, non seulement il y a une lumière qui est venue, mais il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Elle ne dira pas que cela la voix, mais en tout cas il a entendu cette voix qui vient lui parler. Vous savez, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'au travers de l'évangile, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre au cœur des hommes. C'est par ce moyen-là que Dieu s'adresse à l'humanité. C'est par le moyen de la voix de son esprit que Dieu parle encore aux êtres humains. Là, depuis quelques semaines, on a une dame qui vient là. Et cette dame, c'est une Kabyle. Et quand la première fois qu'elle est venue, c'est une amie qui l'a amenée. Elle m'a appelé, son amie, elle m'a dit, elle veut venir à la réunion de jeunesse. D'avoir 40, 45 ans peut-être. J'ai dit, ben laisse-la venir, c'est pas grave. Elle est venue, elle a entendu l'évangile. Et c'était un jeune qui prêchait ce jour-là. Puis moi, j'étais sur ma chaise et je me disais, qu'est-ce que je fais? Je dis quelques mots quand même, je finis la réunion, je fais prier. Je ne savais pas trop quoi faire. Il y avait un vrai combat dans mon cœur. Puis je me suis levé pour finir la réunion, puis j'ai dit quelques mots. Et dans ces quelques mots que j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, vous savez, un homme qui était prédicateur en Afrique du Nord, il y a de nombreux siècles, a dit cette parole formidable, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu, et seul Dieu est capable de le remplir. Et quand j'ai dit ça, c'est comme si la voix du Seigneur se faisait entendre. Elle est sortie de la réunion bouleversée. Et dernièrement, là, dimanche dernier, elle était avec nous au culte le matin. Et elle était là, on était en train de prier, et puis la voix de l'Esprit s'est fait entendre. Quelqu'un a parlé de la part de Dieu, saisi par l'Esprit, a parlé de la part de Dieu. Et cette dame, cette Kabyle-là, elle s'est tournée vers son amie, étonnée, émerveillée à la fois, et lui a dit, ça c'est incroyable. Elle est en train de dire ce que je suis en train de penser. La voix du Maître, la voix de Dieu, qui nous amène à considérer ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à moi. Et vous savez, quand vraiment c'est Dieu qui s'adresse à nous, quand par le moyen de l'évangile, c'est le Seigneur qui parle à notre cœur, il n'y a plus de doute possible. On sait que c'est lui qui parle. On sait que c'est lui qui s'adresse à nous. Un jour, j'étais à l'Ariane, à Nice, à l'Ariane, et je prêchais, et on avait quelques jeunes qui venaient là dans l'église, et puis il y avait un jeune qui venait depuis quelques temps, et ce jeune, il vient me voir à la fin d'une réunion, et il me dit, tu sais Fred, il me dit, quand tu prêches, ça me passe complètement au-dessus. Hein. C'est gentil, hein. Ça fait toujours plaisir. Hein. Moi, il était vrai. Hein. Alors, je ne me suis pas démonté, bien sûr, et je lui ai dit, écoute, tu sais, c'est pas grave ça. C'est pas grave que quand je prêche, ça te passe au-dessus. Tu sais, le jour où c'est le Seigneur qui va te parler, tu vas sentir la différence, t'inquiète pas. Quelques semaines après, il était dans l'église, il était en train de prêcher, il pleurait. Je dis, ah, celui-là, il doit y avoir quelque chose qui se passe quand même. À la fin, il est venu me voir, ah, c'est Dieu qui a parlé à mon cœur. Ah oui, c'est pas pareil quand c'est Dieu qui parle. C'est pas pareil quand c'est Dieu qui parle. N'est-ce pas? Je vais vous raconter une expérience. Quand mon père est venu à l'évangile, il est athée complètement. Il ne croit pas que Dieu existe. Et il est persuadé d'une seule chose, c'est que la science va tout expliquer un jour. Et il est invité à venir écouter l'évangile. Et il vient un dimanche matin. Il s'est assis au fond de l'église. Connaissait personne dans cette église. Et puis il y a quelqu'un qui, saisi par l'Esprit de Dieu, s'est mis à parler de la part de Dieu. Et voilà ce que la personne a dit. Tu es ici pour la première fois. Tu crois que Dieu n'existe pas et que la science va tout expliquer, mais Dieu est au milieu de son peuple ce matin. Il s'est levé pour voir qui parlait. Le cartésien, vous savez, et d'un coup, c'est plus cartésien ça, hein. C'est illogique une chose pareille. Puis quand il a vu la personne, il a dit, mais cette personne, je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est. Comment peut-elle savoir ça? Donc il est reparti avec un grand point d'interrogation en se disant, il se passe ici des choses étranges. Quelques semaines après, il est revenu une deuxième fois. Il s'est assis au fond de la salle. Et puis, une autre personne, saisie par l'Esprit de Dieu, s'est mise à parler de la part de Dieu. Et voilà ce que la personne a dit. Tu es ici pour la deuxième fois. Tu crois que Dieu n'existe pas et que la science va tout expliquer. Mais Dieu est au milieu de son peuple. Quand il est sorti de cette réunion ce jour-là, il était persuadé que Dieu existe. Parce que c'est la voix de Dieu qui s'est fait entendre. C'est l'Esprit du Seigneur qui tout d'un coup parle. Et quand c'est l'Esprit qui parle, ça devient différent. On sait que c'est Dieu qui parle à notre cœur. On sait que c'est lui qui s'adresse à nous. Et c'est tellement extraordinaire, n'est-ce pas? Tellement extraordinaire. Une voix s'est fait entendre. Et notre prière, c'est que cette voix se fasse entendre de plus en plus souvent. Pas seulement dans notre vie, mais dans nos réunions, dans nos rassemblements, dans les contacts que nous avons avec les uns, avec les autres. Que la voix du Maître se fasse entendre. Que les cœurs puissent l'entendre. Parce que la voix du Maître, elle s'adresse à nous pour notre bonheur et surtout elle s'adresse à nous pour notre salut. C'est pour cela que Dieu nous parle. C'est pour cela que Jésus nous parle. Parce qu'il veut nous sauver. Amen. Il veut nous sauver. Combien de fois nous l'avons vu, j'ai un ami, une personne que je connais sur Marseille, qui est kabyle aussi lui. Et la première fois qu'il est venu, c'est ma grand-mère qui l'a invité. Alors il est venu écouter la parole de Dieu. Et ce soir-là, c'est un moment de prière. Tout d'un coup, une personne s'est mise à parler dans sa langue, le berbère. Il a regardé qui était cette personne. Il s'est aperçu que c'était un bon français. Et là, il s'est dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Quand il est sorti de la réunion, il avait donné sa vie à Jésus. La voix du Seigneur s'était fait entendre. Puis, remarquez, la voix ne se trompe pas. Hein. Elle a bien dit, Saul, Saul, elle sait à qui elle s'adresse. C'est une voix qui connaît bien la personne, puisqu'elle lui dit, voilà ce que tu fais. Dans ma famille, moi, du côté de ma femme, on a un couple, et... Ils étaient venus aux réunions là, pendant quelques temps et je me souviendrai toujours parce que bon, ils avaient une façon de faire, ils travaillaient dans une usine et de vaisselle et de temps en temps ben, ils récupéraient 2-3 assiettes, des trucs comme ça, vous voyez. Et ils viennent à une réunion et à un moment donné le pasteur qui prêchait il donne un exemple. Et dans sa prédication, il dit, oui, c'est comme ce couple-là qui travaille dans une usine et qui prend un petit peu de temps en temps ce qui passe par là. Et qui prend une fourchette et qui prend un verre et qui prend une assiette. Oh, quand ils l'entendent, la femme s'est tournée vers son mari. Elle lui a dit, j'espère qu'il ne va pas dire notre nom. Comme Dieu nous connaît, hein? Comme Dieu nous connaît, n'est-ce pas? Parce que là, dans le texte, il a dit son nom, hein? Saul, Saul. Il nous connaît parfaitement, le Seigneur. Il sait tout de nous. On ne peut rien lui cacher. C'est pourquoi il vaut mieux être vrai devant Dieu. Ce n'est pas la peine de jouer la comédie devant Dieu. Un ami s'était converti. Il m'a expliqué que c'était un voyou, un brigand. Voilà, vraiment une vie, mais alors terrible en réalité. Puis il est venu écouter l'évangile et un chrétien lui a dit, écoute, tu sais ce que tu fais vraiment? Tu as besoin de ça, tu vas chez toi, tu rentres chez toi, tu te mets dans ta chambre, tu fermes la porte, là tu pries le Seigneur, tu demandes à Dieu de t'aider, de te secourir. Et il m'a dit, Fred, j'ai fait ça, je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte de ma chambre, là je suis rentré à la chambre, j'ai fermé la porte, et je me suis mis à prier. Et il m'a dit ça, il m'a dit, pour la première fois de ma vie, j'étais vrai. Il ne peut pas faire autrement. Il est devant Dieu. Quand on est devant Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'être vrai. Ou alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête. Hein. Mais quand on est vraiment devant Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'être vrai. Et quand il est sorti de ce moment, le Seigneur l'avait béni richement. La voix du Seigneur. C'est une voix extraordinaire, tellement douce. Une voix pleine d'amour, même quand elle reprend. Même quand elle veut redresser. C'est toujours avec beaucoup de grâce, n'est-ce pas? J'aime tellement la manière dont Dieu nous parle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous, quelquefois, on n'est pas pareil. Hein? Moi, j'ai 4 enfants. Je les aime énormément, mes enfants. Mais il y a des moments, qu'est-ce que je suis content quand je suis seul avec ma femme. Il y a des moments, ils nous énervent, ils nous irritent. Ils nous... C'est vrai ou pas? Ça vous est jamais arrivé, c'est pour ça. Parce que vous avez des enfants parfaits, moi non. Et parfois, quand vraiment ça, on est irrité, on ne dit pas les choses de la bonne manière. Hein. C'est vrai ou pas? On le dit d'une certaine façon, d'une certaine manière. Le ton que l'on emploie, parfois même les paroles que l'on adresse, ce n'est pas terrible. Mais Dieu n'agit jamais comme ça. C'est toujours avec une grâce extraordinaire. Toujours avec un amour formidable. À Nice, là, avec le pasteur Lust, depuis quelques mois, là, quelques semaines, il nous a partagé les petits prophètes. Il a fait tous les petits prophètes, là. On a fini cette semaine. Et il faisait remarquer, jeudi soir, à une prière, il nous disait une vérité tellement extraordinaire. Il disait, voyez, ce qu'il y a de formidable dans les petits prophètes, c'est que malgré tout ce que Dieu peut dire à Israël, et à d'autres nations même, mais surtout à Israël, ce qu'il y a de formidable, malgré l'endurcissement de ce peuple, malgré même tous les reproches qu'il leur fait. Et croyez-moi, parfois les reproches sont durs. Hein. Il y a toujours quand même le moyen du relèvement. Toujours quand même la grâce qui est là. Toujours quand même l'amour de Dieu qui va au-delà. Notre Dieu, il est extraordinaire. Hein. Il est extraordinaire, pas vrai? La voix. Quelle voix. Quelle merveilleuse voix. J'avais un jeune à l'église à Nice Nord là. En fait, ces 3 frères, quand ils sont rentrés la première fois à la réunion de jeunesse, c'est drôle les choses. Quand je les ai vus rentrer, j'ai regardé rentrer et j'étais là sur ça. J'ai dit, Seigneur, ces 3 là, on les attrape. Hein. on les chope les 3 là. Hein. On les lâche pas. Hein. Et les 3 vont se convertir en fait. Les 3. Mais le plus jeune d'entre eux a été le dernier à se convertir et un jour, il vient me voir, il me dit, Fred, mes frères, tu vois, ils vivent des choses extraordinaires. Il y a la présence de Dieu, tout cela, Dieu leur a parlé. Ils ont vraiment fait des expériences et ils ressentent des fois la présence de ça. Il dit, moi, je ressens rien. Rien. Alors j'ai dit, oh, te fais pas de soucis, ça va venir. T'inquiète pas. Et puis, quelques semaines après, on a fait un camp avec les jeunes. On est parti un week-end, là, et je me rappellerai toujours. Dans une réunion, à la fin d'une réunion, on était en train de prier avec les jeunes. Et tout d'un coup, je l'entends, lui. Il se met à prier. Seigneur, je ressens ta présence, Seigneur. C'est extraordinaire. À la fin, il est venu me voir, il me dit, c'est de la bombe. Je dis, ouais, c'est presque ça. Vous voyez, mais, voyez, c'est... Oui, Dieu peut parler à chacun, en fait. Dieu peut s'adresser à chacun parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi la voix peut se faire entendre. Parfois, elle se fait entendre au moment où on s'y attendait le moins. Au moment où on s'y attendait le moins. Pendant des années, j'ai vu ma sœur et mon beau-frère s'éloigner du Seigneur. De temps en temps, j'essayais de leur lancer une perche, mais c'était compliqué. Et on priait pour eux. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose. Un soir, ma sœur m'appelle, elle me dit, « Voilà, Fred, je t'appelle parce que je sors du médecin, il me parle d'un cancer à l'utérus. » J'ai dit, « Ben, faut qu'on prie le Seigneur. » Quelques jours après, c'est son mari qui m'a appelé. Et là, quand il a commencé à me parler, je l'ai écouté parler pendant 5-10 minutes, au fur et à mesure qu'il me parlait, je me disais en moi-même, est-ce que c'est bien lui que j'entends? Entre-temps, la voix de Dieu s'était fait entendre. Et ça a tout changé. Pour l'histoire, Quelques semaines après, ma sœur passe un deuxième examen et le médecin lui dit « Madame, on ne comprend pas. Vous avez pris des remèdes, vous êtes allé voir un médecin, vous avez fait quelque chose ?» Non, pas du tout. Il dit « Ben, la grosseur, si vous voulez, elle était comme ça, puis tout d'un coup, elle est beaucoup plus petite. » Alors il dit « Pour l'instant, on ne touche pas, on attend un peu, puis on fait un autre examen dans quelques temps. » Et ils font un troisième examen. Et au troisième examen, le médecin lui dit « Madame, excusez-nous, on ne comprend rien à votre histoire. » Il y avait bien ça, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous pouvez rentrer à la maison tranquillement, vous n'avez plus aucun problème, plus aucun souci de ce côté-là. Et c'est comme ça que la plupart des enfants de ma sœur se sont convertis. Amen. Seigneur est bon quand même. Hein. Ouais. Tant que c'est moi qui parlais, et quand c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, je crois que Dieu peut se servir de moi pour parler aussi. Hein. Attendez, faites pas dire ce que je dis pas. Hein. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut, le Seigneur. Mais quand c'est lui qui parle, c'est bon. Et je termine, l'évangile, c'est aussi une puissance. Parce qu'il a fallu une sacrée puissance pour arrêter cet homme dans sa folie et faire ce que, eh bien, il va être fait dans sa vie. Pas vrai ? Et l'évangile, c'est vraiment une puissance. Une puissance pour arrêter l'homme dans sa folie, dans son péché, et même le plus orgueilleux d'entre eux à le mettre à terre, là. C'est ce qui s'est passé. Hein. Quand la voix s'est fait entendre, il s'est retrouvé à terre, là, mordant la poussière. Dieu est capable de faire cela, de prendre même les plus orgueilleux, les plus endurcis, les plus durs, et les amener à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Il faut la puissance de Dieu pour ça, non ? Dans ma famille, j'avais un cousin, et ce cousin, il était vraiment dur, quoi. Et je me souviens qu'un jour à l'église, un ami commun est venu me voir et il me dit ben, « Tu as des nouvelles, ton cousin est tel ?» Et je lui réponds ça, je lui dis « Écoute bien ce que je veux dire. Si dans ma famille, quelqu'un se tourne vers Dieu, lui, ça sera le dernier. » Ça, c'était pas la voix de Dieu. Un mois après, le même garçon me pose la même question dans l'église. Il me dit « Alors, tu n'as toujours pas de nouvelles, ton cousin est tel ?» Je lui dis « Écoute bien, si tu attends quelques instants, il va arriver, il va rentrer dans l'église. » Quelques instants après, il rentrait. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Ben, c'est qu'entre-temps, bien, Dieu m'a permis d'aller le voir, ce cousin. Je suis allé avec un chrétien. Comment je me suis retrouvé là avec un chrétien ? J'en sais rien, je ne me rappelle même pas. Mais on s'est retrouvé là. Et on lui a parlé du Seigneur. C'était dur, c'était compliqué. Oh ! Une lutte, une bataille terrible. Mais on lui a parlé du Seigneur. Et chose étonnante, on lui parlait de guérison. On insistait sur la guérison. On lui disait que le Seigneur Jésus peut guérir vraiment les malades. Et on donnait des exemples. Chose que je ne savais pas, c'est qu'il était malade. Le lendemain, il s'est réveillé et il a fait dans la nuit un rêve, il a eu un songe. Et dans le songe, il se voyait se réveiller le matin et il constatait sa guérison. Sauf que quand le matin il s'est réveillé, il a constaté sa guérison. Quelques jours après, il est à l'église. Et Dieu m'a dit ce jour-là, je ne veux plus jamais que tu dises que telle ou telle personne, tel ou tel individu sera le dernier à se convertir parce que moi je peux tout. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui peut terrasser n'importe lequel des hommes et les amener à se tourner vers lui. Et surtout, ce n'est pas juste ça va terrasser à Saul de Tarse, ça va le transformer. D'un persécuteur, il va devenir prédicateur de l'évangile. C'est extraordinaire, pas vrai ? C'est comme il n'y a que l'évangile qui peut produire ça, qui peut faire ça. D'un homme violent, cruel, méchant, un homme rempli d'amour, rempli de grâce, on va même l'appeler l'apôtre de la grâce. Vous imaginez ? Quelle transformation dans sa vie, quel changement dans sa vie. Ah, j'aimerais vous dire que quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu commence à agir, ça transforme vraiment notre vie. L'évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu qui transforme notre vie. C'est ça être chrétien, c'est que Dieu nous transforme. Pas vrai ? Et quelques semaines maintenant que mon premier garçon s'est converti, ça a été une grande joie pour nous de le voir se convertir. Mais ce qui nous amène à à croire vraiment qu'il s'est converti, c'est le changement. Un vrai changement. Ça va jusque-là. Mon père me disait une fois, il me dit, tu sais Fred, il est vraiment converti ton gamin. Parce que mon père fait la conduite accompagnée avec lui. Et il m'a dit, même quand il conduit, c'est pas pareil, il me dit. C'est différent. Il est différent. Il est différent. Et en réalité, on s'aperçoit que dans plein de choses, il y a de vraies différences qui sont là, qui se manifestent. Et ça, c'est vraiment la puissance de l'Évangile. Et on a besoin de la puissance de l'Évangile, pas vrai? Dites-moi, vous en avez bien des gens autour de vous, des amis, des parents, etc. Seigneur, qu'est-ce qui peut faire la différence? Eh bien, c'est que l'Évangile, puissance de Dieu, se manifeste dans leur vie. C'est que l'Évangile vienne avec puissance transformer leur vie et leur cœur. Et laissez-moi vous dire que Dieu a le pouvoir de transformer le pire. Il a changé Saul de Tarse. Il l'a transformé, sa puissance est venue, elle a transformé sa vie. Dieu est capable de transformer n'importe quelle vie. Il a transformé la nôtre. Vous savez, il en fallait de la puissance de Dieu pour transformer notre propre vie, pas vrai? Eh oui, mais Dieu l'a fait. Il l'a fait d'une manière extraordinaire. Moi, quand il m'a changé, transformé, je ne m'en rendais même pas compte. Quelques mois après, j'ai une cousine qui m'appelle et je ne l'avais pas vue depuis plusieurs années, cette cousine. Et je commence à discuter avec elle au téléphone. Je ne lui ai encore pas dit un mot de Jésus, pas un mot de l'Évangile. Et au bout de 5 minutes, elle me dit « Oh, oh, arrête de parler là, 2 secondes, il faut que je te dise un truc. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a arrivé ?» Elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» T'es pas le même. Je vais te dire ce qui s'est passé. Et là, je me suis régalé. Hein. Pas vrai? On ne s'en rendait pas compte. C'est Dieu qui faisait cela. Il transformait la façon de se comporter, de parler, de penser, d'agir, de réfléchir. N'est-ce pas? Il transforme tout. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des gens, et là, je m'adresse même aux chrétiens qui sont là maintenant, je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui manifestent un certain caractère, vous savez, quelquefois, et alors quand on leur dit, mais quand même, le Seigneur, il veut pas, vous savez, excusez-moi, c'est plus fort que mon caractère. C'est mon caractère, c'est plus fort que moi. Mais ce n'est pas plus fort que Dieu. Votre caractère, il n'est pas plus fort que Dieu quand même. S'il y a un problème avec votre caractère, allez au pied du Seigneur, dites, Seigneur, change mon caractère. Tout autant que vous avez envie de voir qu'il a besoin que le caractère change. Je le dis souvent en plaisantant, mais c'est tellement vrai. Et quand on a un problème avec quelqu'un, etc., le mari a un problème avec son épouse, l'épouse a un problème avec son mari, etc., ou les enfants, on vient devant le Seigneur, et on prie le Seigneur, on dit « Seigneur, s'il te plaît, mais change-le, mais change-la ». Et puis, très souvent, le Seigneur va vous répondre avec beaucoup d'amour, avec une grâce extraordinaire. Il va vous dire, je veux bien changer cette personne, mais d'abord, je vais commencer par toi. C'est vrai ou pas? Mais oui, mais oui. C'est pourquoi, prions. Le Seigneur peut changer notre vie, peut changer la vie des autres. Je vous donne un dernier exemple. À Marseille, on avait une dame, à l'église de Marseille-la-Rose, on avait une dame qui était là. Et cette dame, depuis le moment où je me suis converti, jusqu'au moment où je suis parti à Nice, toutes les réunions de prière, je l'ai entendue prier pour son mari. Quand elle commençait, je pouvais, avant qu'elle dise les mots, je pouvais vous dire les mots. Toutes les réunions, à la fin, il y en a quelques-uns, oh, pff, Seigneur, ta grâce. C'est vrai ou pas? On est mauvais, hein? Mais elle priait, et elle priait de tout son cœur en fait. Je suis parti à Nice travailler en 1994. Peut-être 2-3 ans plus tard, je vais sur Marseille dans ma famille, et comme j'en avais l'habitude, eh bien je me rends dans l'église où je suis né spirituellement, et il y avait cette dame qui était là. Et donc je rentre à l'église ce jour-là, ce soir-là, j'arrive à l'église, et elle se mettait toujours au fond, j'arrive là, je vois cette dame qui est au fond, à côté d'elle il y a un monsieur, donc je l'embrasse, je dis comment ça va ma soeur, tout ça, etc. Elle me regarde avec un sourire extraordinaire, et elle me dit, Fred, je te présente mon mari. Qu'est-ce qu'elle a eu raison de croire?
que Dieu pouvait le faire. Pas vrai? Je ne sais pas ce que vous pouvez demander à Dieu, mais l'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit d'abord. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide, et que nous soyons attentifs à sa voix, que sa lumière brille dans notre cœur, que sa puissance intervienne. Et pour cela, soyons humbles de cœur. Soyons humbles. Reconnaissons qu'on n'est rien. J'aime pas la tendance actuelle qui se manifeste dans certains milieux évangéliques où l'on fait croire aux gens qu'ils sont quelque chose. La seule chose que nous sommes, c'est qu'aux yeux de Dieu, on a eu du prix. C'est tout. Le reste, on n'est qu'un grain de poussière, qu'une vapeur qui s'élève et qui disparaît, qu'un vase de terre, que des serviteurs du Seigneur. Celui qui est tout, c'est le Seigneur. Amen. Et ça devrait nous garder humbles. Ça nous amène à plier le genou devant le Seigneur, à dire: Seigneur, on a vraiment besoin de toi. Amen. Que Dieu vous bénisse.